Vous écoutez Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Ici Guillaume Laurin et aujourd'hui nous avons deux invités au téléphone pour parler de musique classique, musique baroque en particulier, et des invités de marque puisqu'il s'agit du violoniste Olivier Brault. Bonjour Olivier.
Bonjour Monsieur Laurin.
Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec vous le professeur Norman Cornette. Professeur, bonjour.
Merci pour l'invitation sur les ondes de Choc FM.
Professeur Cornette, que l'on ne présente plus, vous êtes notre correspondant pour la politique internationale, mais également un entremetteur de premier plan pour nous présenter notamment des personnalités fort intéressantes du monde de la musique classique. Alors aujourd'hui, Olivier Brault, docteur Olivier Brault, vous avez été classé parmi les 10 violonistes canadiens qu'il faut connaître absolument, ce en 2016. Je vais peut-être laisser tout de suite la parole au professeur Cornette pour vous présenter un petit peu plus. Sachez toutefois, chers auditeurs, que Monsieur Olivier Brault est une personnalité soliste et chambriste de premier plan, et on va, j'espère, découvrir ensemble un petit peu le monde de la musique baroque à travers Olivier Brault.
Oui, tout à fait. Il fait partie, les mêmes directeurs, d'un ensemble qui me fascine, dont on va jouer, n'est-ce pas, des extraits à la fin de l'entrevue.
Tout à fait.
Au fur et à mesure que je faisais des recherches sur Dr. Olivier Brault, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup à apprendre de lui, et par le fait même que l'auditoire de Choc FM pourrait également apprendre. Et d'abord, sur cet ensemble qu'il dirige, et pourquoi ce titre tellement qui me fascine de l'ensemble, qui va jouer très prochainement dans le cadre du Festival Baroque de Montréal.
Oui, alors l'ensemble que je dirige s'appelle l'ensemble Sonate 1704.
Oui.
Et la raison pour laquelle nous avons choisi ce nom, c'est que la toute première fois que des sonates pour violon écrites par un Français ont été publiées à Paris, c'était en 1704. C'était l'œuvre du violoniste de la Chambre du Roi. Ben, il allait devenir violoniste de la Chambre du Roi, François Duval. Ce François Duval qui avait une charge de violon, qui a eu une charge de violon à la cour à Versailles. L'origine de ce projet, c'était que lorsque j'ai commencé à faire de la musique baroque dans le milieu montréalais, je me suis aperçu que la place de la musique française était relativement petite dans l'offre musicale à Montréal, malgré que le milieu de la musique baroque à Montréal soit très, très dynamique et très vivant.
Oui.
Il y avait une française programmée. Alors, j'ai décidé de me lancer dans des études doctorales sur la sonate pour violon et basse continue. Et puis, j'ai donc fondé cet ensemble pour m'aider à passer au travers de mes études. Donc, ça fait 12 ou 13 ans que nous travaillons ensemble régulièrement.
Quelle belle façon de joindre la théorie à la pratique, n'est-ce pas, Monsieur Laurent?
Mais absolument, professeur.
Et je dois dire, pourquoi est-ce que moi, en tant que spécialiste en sciences des religions, et spécifiquement l'histoire des religions, pourquoi cette période baroque m'intéresse tant? Eh bien, le créneau de l'ensemble de Dr. Brault, c'est justement 17e siècle, 18e siècle. Et voilà pourquoi on est au carrefour d'une période marquante dans l'histoire occidentale. Souvent, nous, les historiens, quand on parle du XVIIe siècle, on parle de l'âge de la foi, l'âge de la religion, alors que le XVIIIe siècle, et c'est un résumé quoi,
oui.
Le XVIIIe siècle, n'est-ce pas, c'est l'âge des Lumières, l'âge de la raison. Or, on se trouve dans la musique baroque au carrefour entre religion et raison, spiritualité et logique. Or, ce qui fait que la musique baroque, à mon humble avis, effectue une synthèse entre la foi et la logique.
J'ajouterais que la musique baroque, ce qu'on appelle la musique baroque, est en fait une musique qui est comprise dans une période de l'esthétique de l'art, qu'on pourrait dire une période rhétorique. C'est la rhétorique qui chapeaute tous les arts, qui fait partie de la construction formelle de tous les arts européens. Et on pourrait presque dire que la musique baroque, en ce sens, est issue de la religion, car à la fin de la à la fin du XVIe siècle, les catholiques voyant les églises désertées pour aller chez les huguenots, ils se sont demandés, et puis aussi à Rome, on se demandait de quelle façon on pouvait ramener les fidèles à l'église, et on s'est mis à enseigner la rhétorique aux prêtres pour qu'ils soient plus éloquents en chair, pour pouvoir convaincre davantage les fidèles. Et ce système de parce que, bon, les jésuites étaient déjà très, très savants, c'était des docteurs, etc., donc ils connaissaient les textes anciens. Alors, on s'est énormément basé sur, entre autres, Quintilien, pour apprendre les formes du discours, les différents affects et puis les façons de convaincre. Et puis Cicéron aussi a énormément servi. Alors, on s'est mis à donc utiliser la rhétorique pour convaincre, et ça a eu tellement c'était tellement efficace que ça s'est répandu à travers toutes les couches de la création artistique. Donc, non seulement le discours qui a commencé au niveau de la religion, mais les arts se sont emparés de la rhétorique pour pouvoir devenir plus convaincant, pour pouvoir émouvoir le public, ce qui était une nouveauté, parce qu'à la Renaissance, on cherchait moins à émouvoir qu'à donner une image de la perfection.
Et pour moi encore, c'est d'autant plus intéressant quand on parle de la rhétorique. Le grand de cette époque, c'est Bossuet. Et j'invite l'auditoire de Choc FM de regarder quelques-uns des sermons qui ont fait date dans la rhétorique. D'ailleurs, quand on parle de la rhétorique, on est dans l'époque où, justement, la période classique en France, on est bien sûr, ça correspond, Dr Brault mentionne la religion, la spiritualité. Rappelons que justement, la fin du XVIIe siècle, ainsi que le début du XVIIIe siècle, correspond chez les luthériens, comme Bach, correspond au piétisme luthérien, alors que chez les Français, et surtout en France, il y a un renouveau spirituel par le mysticisme. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui informent ce qui se passe. Ne parlons même pas de l'arrière-plan, quand on mentionne rhétorique. On est dans la période classique, dans la littérature française. Il y a Pierre Corneille, bien sûr. Il y a Jean Racine. Donc, tout cela prépare les débuts de l'opéra, et ça aussi, ça va informer la musique, qui est la spécialité de l'ensemble de Dr Brault.
Alors, Dr Brault, puisque nous parlons d'histoire et de musique, et que je vois que vous avez vous-même des racines acadiennes, ma question serait de savoir à quel point la musique baroque a été éventuellement amenée ici au Canada, et est-ce que, à votre connaissance, c'était une musique qui a été pratiquée, qui a été développée? Est-ce qu'il y a des racines ici au Canada dans la musique baroque?
Oui, il y a eu très peu de compositeurs de musique à l'époque baroque ici en Nouvelle-France. Oui. Mais la musique, dès les tout débuts de la colonie, a fait partie de l'effort d'évangélisation. Parce que, évidemment, lorsque les compagnies sont venues s'installer ici pour faire du commerce, parce que la Nouvelle-France était surtout un comptoir commercial, oui. Les employés des compagnies se sont aperçus qu'ils avaient maille à partir avec les autochtones, avec les gens qui habitaient sur le territoire. Alors, il y a de grands mystiques français qui se sont dit « il faut convertir ces autochtones pour pour faciliter le travail non seulement des gens qui font du commerce, mais aussi les futures implantations coloniales, et puis aussi sur un plan strictement humain, ce sont des âmes à aller chercher, ce sont des gens à rejoindre pour grandir le peuple de Dieu, d'une certaine façon. Donc, dès le milieu du XVIIe siècle, on retrouve des jésuites qui jouent du luth, qui jouent de la flûte, qui jouent du hautbois même. On retrouve même de la pochette. La pochette qui est le tout petit violon des maîtres à danser. Il y a mention d'un jésuite qui joue de la pochette pour évangéliser les autochtones. Et puis, semble-t-il, ça marchait très bien. Les autochtones réagissaient très, très bien à la musique. Québec ou Montréal se sont très vite retrouvés dans une situation, je dirais, similaire aux petites villes de province française. On retrouve les mêmes instruments de musique, les mêmes partitions de musique que l'on retrouve à la même époque dans les petites villes de province en France. Donc la vie musicale était aussi riche que dans une ville comme en Champagne ou à Bordeaux ou à Lyon à l'époque. Donc la vie musicale est déjà assez riche. Il y a des clavecins, il y a des violons, il y a des luths, des viols de gambe. Et puis la musique, évidemment, est importée de France. On retrouve des opéras de Lully, on retrouve des sonates de Corelli au début du 18e siècle. On trouve des sonates de Michel Machetti aussi, qui travaillait à Versailles. Des sonates des cantates de Lorenzani, des cantates de Campra, des cantates d'Élisabeth Jacquet de la Guerre. D'ailleurs, le livre de sonates dont est tirée la cantate Judith, que nous allons jouer dimanche prochain, figurait parmi la bibliothèque, je crois, de l'Hôpital Général à Québec, si je me rappelle bien. Donc,
Et là encore, j'insiste, en parlant justement des racines, n'est-ce pas que le docteur Galland-Morin a publié une monographie très importante sur le clavecin ici, en Nouvelle-France. Et je tiens à souligner cela, puisqu'on est maintenant, on célèbre le 375e anniversaire de la fondation de Montréal. Oui. Rappelons à l'auditoire de Jean-Pierre que la Nouvelle-France, en général, la ville de Montréal, à l'origine Hochelaga, chez les Autochtones, Ville-Marie, la ville de la Vierge, mais rappelons que c'était un projet utopique. Et c'est ça aussi qui me fascine dans cette musique baroque. La musique baroque est en quelque sorte une expression de ce projet utopique du mariage de la foi et de la raison.
Tout à fait. Le programme que nous allons jouer dimanche prochain au Festival Montréal Baroque est constitué de musique vocale catholique et de sonates pour violon écrites par des protestants qui ont publié leurs sonates en France. L'intérêt du programme, c'est tout simplement de mettre en opposition ou en contraste deux genres déjà, le genre vocal et le genre instrumental, la cantate contre la sonate, le motet contre la sonate. Mais il s'agit aussi d'un contraste au niveau de l'époque, puisque les pièces vocales s'inscrivent au tout début du 18e siècle, tandis que les sonates que nous allons jouer sont un petit peu plus tardives. Donc, ça sera un récital de coloration, c'est-à-dire on invite les auditeurs à voyager un peu dans le temps et dans les concepts. C'est-à-dire que, évidemment, la musique vocale appelle, la musique sacrée appelle à la contemplation et la musique instrumentale essaie de soulever les passions.
Vous parlez de voyager dans le temps, et justement ma question, cher docteur Brault, serait de savoir si à travers l'interprétation comme ça de la musique baroque, lorsque vous vous produisez sur scène, est-ce que vous essayez en quelque sorte de faire revivre un petit peu un moment d'histoire à travers cette musique, à travers ces concerts?
Oui, un moment d'histoire, moi je considère que la musique baroque fait partie du patrimoine international, et qu'il faut pouvoir visiter, ou je dirais mieux, expérimenter sensiblement, expérimenter cette musique un peu comme on va voir une toile de Léonard de Vinci, puis on expérimente Léonard de Vinci actuellement. Évidemment, la musique baroque, ce sont des, tout ce que nous avons, ce sont des traces actuelles du passé. Et puis, les spécialistes de musique baroque, comme, dont je fais partie, travaillent très, très fort pour rendre ces traces cohérentes. Donc, l'essentiel pour nous, c'est d'être expressif avec les moyens dont ils disposaient à l'époque. C'est pour ça qu'on essaie de retrouver des sons spéciaux avec les clavecins, les violons, avec les cordes de boyaux, les viols de gamme, tout ça. La sonorité fait partie du projet rhétorique, je dirais.
Et je sais que vous avez été enseignant de musique baroque pendant de nombreuses années, notamment à la faculté de musique de l'université de McGill. Est-ce que aujourd'hui, en 2017, on enseigne la musique baroque et la pratique du violon, notamment de la même manière qu'à l'époque?
Pas tout à fait. Il faut évidemment adapter le violon baroque à la modernité d'aujourd'hui. Donc évidemment, à l'époque, par exemple, un élève avait une leçon par jour avec son maître, et puis imaginez 3 leçons individuelles quotidiennes. Évidemment, les progrès étaient phénoménaux, et puis il ne possédait qu'un seul style, c'est-à-dire il devenait excellent dans leur style à eux. On demande à un interprète moderne d'être bon dans une dizaine de styles différents, de musique de différentes sortes, etc. Donc, d'avoir de grands spécialistes très, très habiles sur les instruments baroques, c'est très difficile, c'est très rare. Il y en a. Mais souvent, on aborde les instruments baroques après avoir fait des études en instruments modernes. Et c'est donc souvent une découverte pour chaque interprète. L'interprète historiquement inspiré, je dirais, donc travaille pour être le plus éloquent possible, puisque la rhétorique était le matériau à partir duquel il faut travailler, il fallait travailler à l'époque. Aujourd'hui, le public n'est pas tellement au fait ou au courant des figures de rhétorique ou des procédés artistiques de l'époque, de l'esthétique particulière à l'époque, aux époques, parce que la musique baroque passe à travers différentes époques stylistiques. Mais le but de l'interprète historiquement inspiré aujourd'hui, c'est d'enseigner au public par des concerts fréquents, par des conférences, par des présentations avant les concerts ou entre les pièces. C'est ce que nous faisons d'ailleurs avec Sonate 1704. Entre chaque pièce, je parle du contexte historique, je donne même des indications d'écoute, c'est-à-dire je donne aux gens des éléments à écouter dans la musique que nous jouons pour qu'ils puissent reconnaître des figures de rhétorique, pour qu'ils puissent être plus sensibles à la façon dont les gens écoutaient la musique à l'époque.
Et tout à l'heure, on va écouter un extrait dont j'inviterai Dr. Brault à nous en parler, surtout du compositeur. Mais encore une fois, dans le contexte, rappelons qu'à la fin, malheureusement, le XVIIIe siècle, c'est aussi l'époque en Europe de l'Ouest, dans l'Occident, des guerres de religion. Malheureusement. Donc, et ça explique pourquoi on s'est tourné davantage vers la raison en contrepartie à la religion. Donc, dans ce tourbillon de tout ce qui se passait sur le plan religieux, sur le plan intellectuel, sur le plan philosophique, c'est, n'est-ce pas, l'âge des Lumières, Candide Voltaire qui compose Candide en réponse au tremblement de terre à Lisbonne, et comment expliquer de tels événements et qui mettaient en doute, n'est-ce pas, l'existence même de Dieu, encore moins, comme disait Leibniz, un Dieu qui était omniprésent, un Dieu qui était omnisavant. Alors, s'il existe un tel Dieu, comment expliquer, comment raisonner de tels événements dans l'Europe de cette époque? Et je crois que c'est pour cela, à la fois, ça explique en quelque sorte le dynamisme de cette musique baroque et à la fois cette quête, cette recherche d'une quiétude, d'une paix dans la tempête.
Oui, j'ajouterais que la musique baroque du XVIIe siècle est une musique qui soutient et souligne le sommet atteint par l'Église catholique dans la rhétorique, c'est-à-dire au niveau de la rhétorique. Et d'ailleurs, les Lumières et le 18e siècle vont vouloir faire contrepoids à cet excès. Donc, au tout début, à la fin du 16e siècle, donc, on amène la rhétorique à travers bon, les discours, la religion, les arts, et au 17e siècle, tout ça va atteindre un sommet et va aller, je dirais, plus loin que le sommet, et chaque art, que ce soit en architecture, qu'on pense par exemple au baroque italien, qui pour nous verse dans tous les excès, qu'on pense à certaines musiques opératiques, que ce soit la tragédie française ou les opéras italiens, qui versent aussi dans l'excès. Donc, nous sommes dans l'excès. Nous avons utilisé la rhétorique pour convaincre, mais on a développé tellement les outils rhétoriques qu'on est allé au-delà de l'objectif. On s'est un petit peu répandu, et les Lumières vont essayer de ramener tout ça à quelque chose de plus sain, socialement.
Et cette sonate 1704, on rappelle à l'auditoire de Choc FM, cette année correspond avec l'apogée du classicisme en France, du règne du roi soleil, de Louis XIV. Donc il y a une floraison des arts, et particulièrement en musique. Et tout cela pour inviter Dr. Brault à nous parler du compositeur, de l'extrait qu'on va entendre bientôt.
Juste après ceci, oui, absolument. Est-ce que vous pouvez, Dr. Olivier Brault, nous présenter cet extrait?
Oui, alors il s'agit de la cantate La mort de Didon, de Michel Pignolet de Montéclair. Montéclair, qui est né à la moitié du 17e siècle, qui est mort au premier tiers du 18e siècle. Montéclair était musicien, théoricien, il jouait de la contrebasse. Ouais. Il jouait sans doute du violon aussi, mais il a été le tout premier contrebassiste de l'Opéra de Paris, l'Opéra Royal, en 1700, c'est la date de l'introduction de la contrebasse à l'opéra. On doit à Montéclair plusieurs livres de cantates, on doit aussi une méthode pour apprendre la musique qui est extraordinairement intéressante, puisque plutôt que de reprendre les théories de ses prédécesseurs, il invente de nouveaux modes de solfège, il invente une façon de lire la musique pour faciliter l'apprentissage de la musique. Sa méthode est vraiment très, très bien faite. Alors, Michel Pignolet de Montéclair s'inscrit dans le grand classicisme français, et il applique dans cette cantate, La mort de Didon, tous les outils de la rhétorique de l'époque. Alors, par exemple, quand il veut décrire l'inéluctable ou le tragique, il va utiliser des motifs pointés, séparés de grands silences. Il va utiliser de grandes fusées dans le violon en montant ou en descendant, des gammes très rapides pour décrire des mouvements de passion. C'est presque visuel comme musique. Ensuite, dans le récitatif vocal, chaque mot est dépeint par la musique. Donc, par exemple, quand on parle du ciel, on va élever la voix. Quand on parle de vengeance, on va baisser la voix. On va utiliser des rythmes pointés. Tout ce qui est raconté, tout ce qui est dit dans cette cantate est parfaitement coloré. C'est un peu l'ouvrage d'un peintre, mais un peintre en musique. Chaque mot est peint. Et il y a même des formules. Des formules de rhétorique, des figures de rhétorique qui sont cachées dans la musique. Je vais faire une petite parenthèse sur la cantate Judith de Élisabeth Jacquet de la Guerre que nous allons jouer dimanche prochain. Lorsque la tête d'Holoferne est tombée, Judith a coupé la tête d'Holoferne, il est dit que cette victoire présage une victoire plus grande, et à la base, on entend le motif de la crucifixion, ce qui n'est pas du tout dit dans les mots, mais quand on entend le motif de la crucifixion, ta-di-da-di, alors un auditeur de l'époque pouvait facilement se dire, ah, une plus grande victoire encore, c'est-à-dire la grande victoire sur la mort qui sera donc effectuée à travers le Christ.
Et je me permets d'ajouter, en ce qui concerne Montéclair, d'abord né en 1667, il décède à Paris en 1737. Il était pionnier avec la contrebasse, comme a bien souligné Dr. Brault, mais également, puisque Dr. Brault collabore également en danse, c'est Montéclair qui a composé les fêtes de l'été en 1716, et en parlant de à quel point c'est dramatique, eh bien c'est nul autre que Montéclair qui a composé en 1732 l'opéra Jephté, qui est la tragédie biblique. Or, la tragédie est de vivre toute la gamme des émotions à travers ses compositions. Pour moi, en tant que spécialiste en sciences des religions, c'est d'autant plus intéressant parce que Jephté de 1732, c'est seulement le deuxième opéra basé sur l'écriture sainte, tiré de l'écriture sainte, qui nous est parvenu.
Merci beaucoup, messieurs, pour cette interview tout à fait fascinante sur la musique baroque. On en apprend un petit peu plus sur la relation entre la musique baroque, la religion, la dialectique. On va écouter donc cet extrait, La mort de Didon, de Michel Pignolet de Montclair, par Dr. Olivier Brault. Et puis, un grand merci. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les auditeurs de Choc FM?
Moi, j'y dirais oui, parce que c'est très intéressant, La mort de Didon. Cette thématique de Didon et Aeneas, en fait, a inspiré quelques 60 compositeurs à travers l'Europe sur cette même thème qu'on va entendre à l'instant.
La mort de Didon, donc. Merci beaucoup à vous, messieurs.
Merci à vous.
Fatal théâtre de sa rage, dit-on ce moment, ce livre.